Je donne la parole à Jacques Seda.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Je vais parler de la transmission en reprenant une certaine dimension historique pour situer Françoise Dolto dans l'histoire de la psychanalyse. Parler de transmission à propos de Françoise Dolto relève presque d'un pléonasme, tant sa clinique et ses écrits théoriques expriment la volonté et la nécessité de transmettre, c'est-à-dire de faire partager à d'autres ses découvertes aussi bien que ses incertitudes. C'est contribuer à la recherche psychanalytique que j'ai jugé nécessaire de rédiger un cas dans sa totalité, écrit-elle en préliminaire du cas Dominique, après avoir évoqué la rareté des études de cas chez Freud. La documentation verbale et graphique que Freud nous a donnée de certains de ces cas nous est d'une aide pourtant considérable à côté des déductions théoriques qu'il en a tirées. Il ouvrait par là la porte à notre réflexion personnelle et à nos critiques formatrices. Dolto écrit que Freud ouvrait la porte. Or, transmettre, c'est précisément maintenir la porte ouverte pour d'autres, être un maillon dans une chaîne d'expériences et de connaissances qui se prolongent et s'enrichissent de nouveaux apports d'un psychanalyste à l'autre et aussi d'un patient à l'autre. D'ailleurs, pourquoi ne pas souligner une évidence qui est pourtant une spécificité de la démarche psychanalytique ? La transmission est bien plus au cœur de la réalité psychanalytique que bien d'autres domaines d'investigation. Sans doute parce que ce qui est en jeu n'est pas seulement un savoir, mais un être humain, un sujet en souffrance, et en souffrance d'être entendu. Parmi les multiples héritages et transmissions que nous pouvons relever dans la clinique et la pensée de Françoise Dolto, je n'en retiendrai délibérément que trois, parce qu'ils sont à la racine même de sa démarche, et parce que ce qu'elle a transmis, c'est non seulement ce qu'elle a appris d'eux ou avec eux, mais aussi et surtout ce qu'elle en a fait, ce qu'elle a construit elle-même en inventant sa propre voie et souvent à contre-courant. Françoise Dolto assure la transmission d'un premier héritage, celui de Freud, avec la mise à jour de l'importance de l'infantile, à une époque où, pour le moins qu'on puisse dire, cette découverte freudienne ne rencontrait pas un accueil enthousiaste auprès de ses confrères viennois. Pourtant, lorsqu'après avoir publié les trois essais sur la théorie sexuelle, Freud expose à ses collègues les explications sexuelles données aux enfants en 1907, il amorce et ébauche ce que Dolto approfondira tout particulièrement et développera. S'élevant contre les cachotteries et le refus de répondre aux questions des enfants sur la sexualité, Freud, qui n'est pourtant pas spécialement anarchiste, prend comme référence Multatuli, de son vrai nom Édouard Douve Decker, homme célèbre pour son anticonformisme, ses prises de position anticolonialistes, son combat contre le sexisme, le racisme et la religion. Et c'est ce personnage libertaire Multatuli qui inspire à Freud cette approche neuve face aux questions laissées sans réponse par les adultes. Je le cite. « Je ne sais pas vraiment dans quel de ces dessins je dois trouver la raison de dissimuler aux enfants, comme on le fait, ce qui concerne la sexualité. Je les trouve tous également absurdes, et il m'est difficile de les réfuter sérieusement. Je me rappelle cependant que dans les lettres de famille du grand penseur et ami de l'homme Multatuli, j'ai trouvé quelques lignes qui sont plus qu'une simple réponse. » Et ici, il cite Multatuli. « D'une façon générale, il y a des choses qui, selon moi, sont trop voilées. On a raison de conserver la pureté de l'imagination à l'enfant, mais cette pureté n'est pas garantie par l'ignorance. » C'est précisément cette écoute de l'enfant que Dolto reprend à son tour, en allant beaucoup plus loin que Freud dans son travail avec les enfants. Deux autres personnages ont joué un grand rôle dans l'élaboration de ce travail et de cette approche des enfants par Françoise Dolto. René Laforgue, qui fut son analyste, et Sophie Morgenstern, avec qui elle fit un contrôle et qui l'initia à la psychanalyse d'enfant. Ce qui marque Françoise Dolteau et ce qu'elle retient de René Laforgue, c'est d'abord sa longue recherche sur la névrose familiale que Freud n'avait pas du tout entrevue. La névrose familiale est l'organisation névrotique d'un couple qui a des incidences sur les enfants et qui se transmet aux enfants. Pour qu'apparaisse une psychose, il faut que les choses se jouent sur 3 générations. Cette idée vient de Laforgue, même si on a tendance à l'oublier. Voici ce qu'il écrit dans « La névrose familiale ». Il existe un surmoi primitif, pré-édipien, dont l'influence précédera celle des parents. Et le surmoi parental sera en quelque sorte surajouté, quelque chose comme un surmoi secondaire. Et voici comment Dolteau évoque ce travail de Laforgue sur la névrose familiale dans une interview en 1986. Laforgue avait parlé de la névrose familiale et ça avait fait un tollé épouvantable chez les psychanalystes. Et le fait de s'intéresser à l'Œdipe des parents, de quelqu'un qui était psychotique ou névrosé, avait provoqué un tollé. On disait que les parents sont des gens très bien. Ça, c'est du temps de la première génération psychanalytique. Que les gens très bien, ça n'a pas d'Œdipe. C'était inouï ce que l'on entendait. En tout cas, pour quelqu'un qui, comme moi, savait que le problème des enfants en cours de structure, c'est celui de la relation structurante avec les parents, tels qu'ils sont. La névrose familiale, c'est une forme de structure. Laforgue l'avait compris en établissant des relations entre des parents obsessionnels et des enfants phobiques. Ça m'avait beaucoup intéressé, surtout de voir que, lorsqu'un enfant allait mieux, c'est l'état de sa mère qui s'aggravait. J'avais très vite compris qu'il fallait travailler avec la mère pour que l'enfant puisse être déculpabilisé de guérir. Fin de citation. La notion de scotomisation est un autre apport déterminant de Laforgue pour la clinique de Dolteau. Dans une lettre à Freud du 10 juin 25, Laforgue écrit « La scotomisation correspond au désir infantile, donc non refoulé, de ne pas reconnaître le monde extérieur, mais de le mettre à la place, à mettre à sa place son propre moi, c'est-à-dire un fragment de son moi, donc un fragment partiel de son corps. » Voilà le corps qui apparaît déjà dans la théorie psychanalytique. Dans ces conditions, le processus de refoulement n'aurait pas surmonté les états primitifs de façon normale, mais au contraire, les aurait laissés subsister. Cette théorisation me paraît extrêmement importante sur le plan clinique parce qu'elle permet de renoncer au principe du primat freudien de la représentation. Comme le souligne Laforgue, le désir infantile, le Wunsch, n'est pas refoulable parce qu'il échappe à l'économie de la représentation qui est la condition même pour qu'il y ait du refoulement. Des traumatismes sexuels infantiles auquel on attache plus d'importance aujourd'hui qu'on en accordait autrefois, quelque chose échappe à la représentation. Il y a donc de l'irreprésentable dans la psyché, ce qui explique aussi le silence ou l'impossible parole sur les corps, et en particulier les traumatismes ou les séductions qu'ont vécu un enfant reste très longtemps silencieux parce qu'indicible. Et de ce fait, il se répète indéfiniment. Il arrive même qu'il passe à une autre génération. Autre forme de transmission, à partir du silence sur le corps. C'est cette impossible parole du corps qui amène Sophie Morgenstern, et après elle, Françoise Dolteau, à inventer une approche et une autre écoute dans le cadre de la cure. Ce que l'enfant ne peut livrer et dont il ne peut se délivrer par la parole, Sophie Morgenstern entreprend de le faire surgir par le dessin et par le modelage. Ce que l'enfant, écrit-elle dans un article, ce que l'enfant n'oserait écrire ni dire, il le révèle dans ses dessins parce qu'il ne prévoit pas que les petits tableaux qu'il peut faire, on pourra déchiffrer son caractère comme dans ses propos ou son écriture. Il va être lui-même, il s'aventure, il s'exprime. C'est à Sainte-Anne, chez Georges Hier, que Françoise Dolto s'est initiée à la technique des dessins d'enfants. Et dans ce même entretien de 1986 avec Elisabeth Roudinesco, lorsqu'elle évoque ses débuts de psychanalyse pour enfants à l'hôpital, elle insiste sur l'importance de ce que peuvent représenter le dessin et le modelage dans l'évolution de la cure. J'écoutais les enfants comme on écoute des adultes, c'est-à-dire à un rythme régulier, en ajoutant ce que Mme Mongerstein m'avait enseigné, qu'ils ne savaient pas quoi dire, ce qu'ils ne savaient pas quoi dire, ils le dessinaient et parlaient leur dessin après. Mais s'ils ne parlaient pas leur dessin, moi, je ne les parlais pas leur dessin. C'est à eux de s'exprimer par un langage graphique, lequel les provoquait à raconter un fantasme que ce dessin représentait, et ensuite à continuer en faisant un autre dessin. Les enfants font des bandes dessinées qui permettent d'écouter les fantasmes qu'ils dessinent. Elle évitait de mettre des mots sur les dessins des enfants. Et j'ajouterai personnellement, sans mettre des mots d'adulte à la place de ceux de l'enfant, ou mettre nos mots dans les leurs. Dans ce travail qu'elle ne cessera d'approfondir avec les enfants, par le dessin d'abord, puis par le jeu qui donne la possibilité à l'enfant de mettre en scène les postures du corps, on retrouve l'équivalent de la libre association de l'adulte. C'est à propos de la névrose familiale que François Dolto emploie l'expression « transmission blessée ». Le génie de Françoise Dolto, c'est qu'elle ne soit pas partie de la théorie d'une théorie. Elle a su très tôt apporter une très grande importance au corps, il ne faut pas l'oublier, et c'est ce que nous rappelle un remarquable article écrit dès 1948, « Les sensations synesthésiques de bien-être et de malaise, origine des sentiments de culpabilité ». Tous nos sentiments, toutes nos pensées s'originent dans le bien-être et le mal-être de notre corps. Elle a su se mettre à l'écoute de l'enfant, sans théorie préalable, à l'écoute des théories sexuelles infantiles qui organisent la névrose familiale et la névrose de l'enfant. C'est ce départ qui lui a permis de mettre à jour et voire d'exhumer ce qui était déjà là mais qui n'apparaissait pas, l'image inconsciente du corps, la théorie psychanalytique de la sexualité féminine et mettre à jour aussi la genèse de la psychose infantile. Quelque chose se transmet du patient à l'analyste, de l'analyste au patient. Et Françoise Dolto a toujours été soucieuse de transmettre, c'est-à-dire de partager ses intuitions, ses interrogations, ne craignant pas de dire au besoin à ses assistants qu'elle n'avait rien compris durant la séance précédente. Voici ce qu'elle écrit en préface au cas Dominique. Si ce travail peut entraîner quelques réflexions critiques et constructives, la polémique étant à mon avis hors du champ de la critique psychanalytique, ce qui n'est pas toujours le cas, je n'aurais pas travaillé inutilement. Ceci m'amène à finir avec cette réflexion. La transmission, c'est quoi ? La transmission, en psychanalyse, c'est la capacité de se laisser déconcerter par l'inouï qui survient chez le patient et que personne jusque-là n'a accepté d'entendre. La transmission, en réalité, c'est accepter de se laisser dérouter par le patient, aussi déstabilisant que cela soit pour le psychanalyste. C'est indubitablement une forme de respect de l'autre face à l'inattendu de la rencontre et du caractère énigmatique toujours de toute personne, et notamment de l'enfant qui, pour Françoise Dolto, est déjà une personne. En se laissant enseigner par les enfants, elle s'est laissée transmettre la parole de l'enfance et elle a su leur parler dans cette langue. Je terminerai par une intervention après le discours de Rome en 1953 de Jacques Lacan, que j'ai retrouvé récemment, où elle écrit ceci sur l'importance de la parole. C'est dans le don de nous-mêmes, que réside toute la réalité de notre existence. Lorsque dans nos analyses avec les infants, nous donnons sans parole, sans verbaliser, la preuve que nous les traitons en semblables, parce que nous recevons d'eux tout ce qu'ils nous donnent, même leur silence, avec l'attention qu'on porte à un égal, nous leur parlons un vrai langage. Nous demandons, par notre attitude, à être reconnus comme semblables. Je m'arrêterai sur cette parole de Françoise Dolto.